Dans les années 1990, l'écrivain Jean-Paul Dubois a sillonné les États-Unis pour le Nouvel Observateur. Sa mission ? Regarder passer la vie dans les commissariats, les hôpitaux, les tribunaux, les églises et les bars. Il en a rapporté ses chroniques, qui sont autant de petits romans vrais de l'Amérique, l'Amérique de Trump avant Trump, et trace le portrait d'une société où cohabitent tous les excès, où se répandent toutes les fièvres morales et les tensions raciales. Plus de 20 ans après, elles n'ont rien perdu de leur acuité. L'Amérique m'inquiète, de Jean-Paul Dubois. Texte choisi par Laurent Martin. Une réalisation de Michel Sidorov. Deuxième épisode.
Chantons sous la Bible. Orlando, Floride, 11 juillet 2002. Il dit quelque chose comme « Vraiment, vous n'avez pas de chance. Nous sommes obligés d'annuler la crucifixion de 16h15. C'est la première fois que ça arrive. » Il ajoute que Jésus n'est pas disponible. Qu'il vient de passer un coup de fil et se trouve être malencontreusement retenu à l'autre bout de la ville par un important rendez-vous d'affaires. Alors Dave Rosenthal, le directeur de Holy Land Experience, n'a d'autre choix en cet après-midi que de décommander l'escouade de soldats romains, Marie-Madeleine, les larrons, la troupe des apôtres, et de faire savoir au public qui avait payé pour voir un vrai chemin de croix mené jusqu'à son terme que la séance du soir était annulée, mais que le spectacle du supplice reprendrait normalement dès le lendemain à la première heure. Comme la chaleur est accablante, nous profitons de ce léger contretemps pour nous réfugier, l'espace d'un instant, dans une sorte de grotte baignée d'ombre, que nous découvrons être une infractuosité sacrée, puisqu'il s'agit du tombeau du Christ. Sur la paroi est gravé ce message à l'attention du visiteur innocent qui s'attendrait à trouver de la compagnie. « He is not here. He is risen. » »« Il n'est pas là, il est au ciel. » Et donc, à peine avons-nous franchi le seuil de cette sépulture qu'une divine fraîcheur, soudain, nous environne. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui souffle sur nous, mais bien les 2000 ou 3000 watts d'un climatiseur Westinghouse dissimulé dans la sépulture pour refroidir les abatis surchauffés du visiteur en short. Alors, assis sur la pierre funèbre, regardant rosir un arrivage de Norvégiens sur la Via Dolorosa, on se dit que vraiment, Marvin Rosenthal, le père de Dave, est un argentier de première bourre. Juif converti au christianisme, honni par tous les rabbins du comté, il a réussi à rebâtir dans les faubourgs d'Orlando, Floride, pour 20 millions de dollars et sur 6 hectares, une sorte de Jérusalem à la gomme, et à en faire un parc à thème invraisemblable, adossé au complexe tout proche de Disney World. De surcroît, il a ajouté à cet ensemble un colossal et sculptural scriptorium, ainsi qu'un centre de spectacle permanent où, entre autres fantaisies, Jésus meurt et ressuscite quotidiennement aux séances de 11h30 et 16h15. Mais par-dessus tout cela, avec ce tombeau rafraîchi au fin fond de cet air factice et rôti, Rosenthal a réalisé cette sournoise performance ontologique de faire croire aux pèlerins fourbus que la mort n'était en réalité qu'un havre de paix régénérateur et bienfaisant, une sorte d'Olympe climatisée par les multinationales de la réfrigération. Bienvenue donc à Holy Land Experience, le Las Vegas de la foi, le showroom du croyant, le loft du pratiquant, le paradis du pauvre. Maintenant, il faut imaginer. Mais peut-on vraiment imaginer ce genre de choses ? À droite, une autoroute. À gauche, une station-service. Et au milieu, derrière des remparts de flanelle, Jérusalem. Ou du moins, quelque chose qui ressemble à l'idée qu'un assistant décorateur de péplum à petit budget des années 1950 pourrait se faire de Jérusalem. 17$ l'entrée, et ensuite à vous de vous débrouiller et d'errer comme une âme en peine sur cette terre sainte. Et sans cesse parcouru par 200 figurants ou acteurs-chanteurs qui, de place en ruelle et en tenue d'époque, tente de vous faire croire que c'est bien Charlton Heston qui a inspiré la Bible. Là, vous venez de croiser Joseph en personne. C'est vrai, vous ne pouviez pas deviner, le rôle est tenu par un Asiatique. Les soldats romains en cuir et jupe à lanières vous dévisagent avec agressivité? C'est juste pour que vous ressentiez combien pouvait être hostile l'armée d'occupation de l'époque. Les chameaux vous adressent à peu près le même genre de regard que les centurions? Dites-vous que 3 fois par jour, ces pauvres bêtes doivent assister, impuissantes, à la passion chantée du Christ. 20 minutes. À sa résurrection, 15 minutes. Et enfin, au défilé des fidèles, permanent. Lassés de croiser des Japonais recuits, des Romains en caleçon, des apôtres hagards et des chanteurs braillards, vous décidez d'en finir et de fuir ce lieu de désolation. Par cette porte? Désolé. Vous venez d'entrer à l'intérieur de la plus grande maquette de Jérusalem jamais réalisée dans le monde. On dirait le projet méticuleux d'un agent immobilier compulsif et marteau. Des milliers et des milliers de petites maisons hautes comme des boîtes d'allumettes, et des ruelles, et des buissons, et des collines à l'infini. Tout est reproduit à l'identique. Un travail de Romain, songez-vous. L'angoisse vous étreint de plus belle, et vous vous ruez vers la première issue. Perdu. Vous voici cette fois dans le hangar d'articles souvenirs et produits dérivés de Holy Land Jérusalem. Le marché est aménagé en une sorte de souk et les vendeurs portent des robes de bure. Au hasard, 9,95 $ la cravate chemin de croix, 10 $ pour le même article représentant la crucifixion. La chemise Moïse ou le polo Saint-Paul? À droite, les CD et vidéos des spectacles maison. À gauche, les t-shirts bibliques et les tasses à café « Jesus is alive ». Votre chemin de croix vient en fait de vous mener dans le temple de la nourriture, où païens, romains, chrétiens, pèlerins et voyageurs norvégiens ripaillent autour des Centurion Salad, des Holy Land Chicken, des Bedouin Beef et autres Jaffa Hot Dog. Vous levez les yeux au-dessus de la buvette et vous lisez cette pancarte. « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Psaume 422. Gardez son calme. Rebroussez chemin discrètement. Mais vite, trouvez une solution. En repassant devant la croix, haut dressée, vous éprouvez quand même cet étrange sentiment qu'elle vous attend. Inutile de vous précipiter vers ce grand dôme cuivré aux allures de basilique byzantine. Cette bâtisse n'ouvre pas sur l'extérieur. C'est le scriptorium, un centre de recherche et d'études sur la Bible, et aussi une sorte de musée, recelant, paraît-il, dans ses caves, les originaux des plus rares écritures sacrées de la planète. Si le scriptorium ne vous donne pas l'occasion de vous enfuir, il a en revanche déjà permis à Marvin Rosenthal d'échapper à un certain nombre de taxes, puisque grâce à l'adjonction de ce bâtiment, son parc d'attractions, qui attire chaque année 300 000 visiteurs, se voit fiscalement classé comme un centre de recherche et d'éducation religieuse, et donc, de ce fait, beaucoup moins lourdement imposé. Ce tour de passe-passe de Rosenthal a fait bondir tous les rabbins d'Orlando et de Floride. La communauté juive en veut à ce renégat d'avoir réalisé, avec Holy Land, une machine à convertir. Une chose est de monter un parc qui célèbre votre tradition et votre religion, explique le rabbin Daniel Volp. Une autre est de créer une entreprise de spectacle dans le but de faire du prosélytisme et de détourner les juifs de leur religion. Mais ces critiques ne sont que miel et pluie de roses au regard de celles qui se sont abattues sur Holy Land lorsque Marvin a annoncé l'ouverture de son fameux scriptorium. En cause notamment des rouleaux de Torah achetés par Rosenthal à un collectionneur du nom de Robert Van Kempen. Ces objets d'une valeur estimée aux alentours de 100 millions de dollars et que nul n'a encore pu consulter pourraient avoir été dérobés par les nazis dans des synagogues européennes durant la Seconde Guerre mondiale. C'est du moins ce que laisse entendre la communauté juive. Perfide hypothèse, qui n'intimide pas celui qui a réussi à faire tenir Jérusalem dans une bouteille et qui se contente de laisser saliver ses détracteurs. N'importe quelle ville d'Amérique serait prête à payer une fortune pour avoir cette collection. Et vous, maintenant? Seriez-vous prêt à débourser une somme tout aussi considérable pour enfin quitter ce cauchemar? Entre une boutique et la Via Dolorosa, vous essayez une dernière porte. Heaven's Gate? Vous avez encore perdu. En une fraction de seconde, vous voilà passé de l'autre côté du miroir, dans des bureaux totalement américains, des salles comptables où l'on additionne les miracles en abscisse et leurs coûts en ordonnée, où Jésus n'est là que pour convertir les actionnaires et où la foi s'arrange toujours avec la loi. Dave Rosenthal est à la tête de ce Barnum à roulettes, dont Marvin demeure le conseiller spirituel. Vous savez, mon père a fait plus de 20 voyages en Israël, et ses séjours l'ont profondément marqué. En ouvrant ce centre, son idée était d'enseigner la Bible aux Américains en replaçant les Écritures dans leur environnement géographique. Lire les textes est une chose. Voir Jésus marcher dans nos rues en portant sa croix est une expérience autrement émouvante. Ensuite, Dave raconte qu'emporté par sa foi, son père est devenu pasteur. C'est d'ailleurs lui qui a conçu le corps religieux du spectacle avant de laisser à un directeur musical le soin de le mettre en chanson. En fait, à Holy Land, tous les jours se ressemblent. Le Saint-Esprit inspire le Père, qui prospère, exaspère ses congénères, tandis que le Fils, terre à terre, gère. Par exemple, en organisant des journées et des nuits spéciales à Pâques et à Noël, avec cocktail du centurion, concert des rois mages, crèche vivante et résurrection d'entre les morts. Nous sommes historiques et honnêtes dans les spectacles que nous présentons, poursuit Dave. Les gens aiment ça. Des moines d'Europe sont venus nous féliciter pour notre travail. Avec le scriptorium, c'est encore plus vrai. Là, nous ne mettons pas en scène une reconstitution, mais proposons quelque chose de vrai, d'exceptionnel. Avec ce centre de recherche, nous ne gagnons rien. Au contraire, nous offrons la richesse des Écritures. De toute façon, le but de Holy Land n'est pas de faire du profit. Et là, soudain, le nez de Dave se met à s'allonger, et à s'allonger. Nous comprenons alors que la visite est terminée et que sans même nous en apercevoir, nous venons de quitter les rues tourmentées de Nazareth pour le monde enchanté de Walt Disney.
Journée d'enfer. Arvada, Colorado, 2 juillet 1998. C'est un bel exercice de tempérance que de se taire, de rester serein, de faire semblant de trouver tout cela normal, de continuer à bavarder avec le pasteur comme si de rien n'était, tandis qu'à deux pas, au centre de l'église, allongé dans un cercueil, un homme mort boit un soda et qu'une jeune parturiente, jambes écartées, accouche entre les mains du diable d'un fœtus sanguinolent. Oui, pendant que les compresses goûtent et que le cadavre se désaltère, mieux vaut se répéter que tout cela n'est qu'un mauvais moment à passer, en espérant l'heure du départ, cet instant béni où ces gens d'église nous serreront la main, avant de nous rappeler avec insistance que le Seigneur, lui, toujours nous tend la sienne. Arvada est une banlieue de Denver, Colorado. 1600 mètres d'altitude, 300 jours de soleil par an, des maisons individuelles pour la semaine, un golf commun pour le week-end et des églises à tous les coins de rue pour se faire pardonner de vivre ici. L'une des plus imposantes s'appelle The Abundant Life Christian Center. Elle est dirigée par le révérend Keenan Roberts, un pasteur protestant de 33 ans. Quand il était jeune, Keenan jouait au basketball. Aujourd'hui, il est à la tête d'une dream team biblique qui rêve de purifier et d'évangéliser tout le pays au forceps grâce à un nouveau catéchisme fait de sang et de larmes, The Hell House Tour, la visite guidée de l'enfer. Keenan Roberts est un impressionnant double maître qui parle avec le calme et le sourire d'un homme ayant des garanties sur l'avenir et une bonne assurance vie. The Hell House. Imaginez une église d'allure moderne, bien tenue, plutôt cossu, mais avec certains jours à l'entrée, une caissière qui vous attend derrière un guichet. Vous voilà aux portes de l'enfer, où pour $6.50, on vous accorde le droit de séjourner 40 minutes en compagnie du malin, d'en renifler l'odeur, d'en éprouver la terreur, et même à la fin des fins, de grimper au ciel pour y côtoyer Dieu et lui confesser votre penchant pour la peccabilité. The Hell House est une succession de tableaux vivants et édifiants, imaginés, créés et mis en scène par le pasteur Roberts. Les acteurs sont des paroissiens qui, à chaque représentation, endossent tenues et maquillage exigés par le script. Les décors, costumes et accessoires sont d'un professionnalisme consommé et traités avec un grand réalisme. « Vous savez, explique Roberts, Cette idée de mettre le péché en scène, d'en faire éprouver l'horreur, a toujours existé. Déjà en 70, un type avait tenté quelque chose comme ça. Ça s'appelait Skirmer, je crois. Mais il n'était pas allé aussi loin que moi. Personne, jamais, ne pourra aller plus loin que le pasteur Keenan Roberts. Une fois pour toutes, il a fixé les limites du genre. Voici quelques extraits des 7 tableaux proposés. L'avortement. Une jeune fille est allongée sur une table gynécologique. Des infirmières prennent sa tension. Du sang s'écoule de son ventre. Le diable, évidemment interprété par le pasteur, retire un bout de viande sanguinolent d'entre ses jambes et s'écrie « Tuer des enfants est un choix formidable. C'est si pratique pour une femme. Et puis, ce bébé aurait pu être un prêtre. » L'homosexuel. Un jeune homme livide et légèrement maquillé est allongé dans un cercueil de luxe. Autour de lui, sa famille éplorée le veille. Le diable. Tu voulais être gay, tu l'as été, et tu es mort du sida. Voilà le résultat de la vie alternative que tu prenais. Alors maintenant, va en enfer. La droguée. En écoutant une musique rock assourdissante, une jeune femme fume, boit de l'alcool et avale diverses drogues. Satan. J'ai mis l'homo dans la tombe, j'ai tué l'enfant à naître, j'ai endormi pour toujours la droguée. Et l'on avance ainsi, de pièce en pièce, de tableau en tableau, croisant une famille agonisante à l'intérieur d'une voiture accidentée et encore fumante. On chemine dans cette crèche désaxée, peuplée d'infirmières, d'assureurs, de garagistes et de médecins chrétiens, tous cotisant aux assurances sociales et à l'automobile club. Tous fiers de jouer, de geindre, de gémir et d'incarner la condition humaine dans le fracas de ces fresques dantesques. Dantesque, vous avez dit le mot. Avec un côté Walt Disney aussi, il me semble. Ne croyez pas que je sois un pasteur illuminé ou marginal, que je crache du feu. Je dirige l'une des plus grandes paroisses de la communauté. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je joue au basket. Je suis un type absolument normal et je m'en tiens à la lettre aux préceptes de la Bible. J'ai choisi un mode de prêche excitant, moderne, dynamique. C'est une nouvelle façon de communiquer le message de Dieu. Ce n'est pas pour des types comme vous que j'ai conçu ce show, mais pour des adolescents de 12 à 18 ans, pour les remuer, les choquer, leur faire prendre conscience du péché et de l'horreur qu'ils représentent. Je veux que l'homosexualité, l'avortement, la drogue, toutes ces sortes de vies alternatives les dégoûtent physiquement. Pour arriver à ces fins, Roberts utilise toutes les palettes des sens. Les lumières doivent être stroboscopiques, aveuglantes, blessantes. La musique insupportable, dissonante. Le tout associé à de puissantes machines à fumer. Et enfin, il y a l'odeur. Cette senteur fétide, prégnante, qui vous accompagne tout au long de la visite. Ça, c'est mon secret. Pour écœurer tout le monde, figurer la puanteur de l'enfer, je fais fondre lentement une motte de fromage Limburger dans un récipient rempli d'eau bouillante. 20 000 personnes sont venues ici en un an prier sous Limburger Cheese. Il paraît que c'est un redoutable exercice de foi. Quant à Roberts, il a été l'invité d'une des dernières émissions de Phil Donahue, où il a expliqué les vertus de son show raisonneur et saisonnier devant 40 millions d'Américains. Après avoir déposé le copyright du Hell House, Roberts a commencé à fabriquer des kits de son spectacle, qu'il exporte aujourd'hui au Japon, au Paraguay, aux Bahamas, en Grande-Bretagne, en France et dans 46 États américains. Pour $150, il livre le manuel nécessaire pour monter chaque scène, ainsi que des cassettes audio et vidéo. Il délègue aussi sur place, à la demande, des directeurs artistiques chargés, dans chaque église franchisée, de monter les représentations initiales. Si nous tenons à la qualité du show, nous ne négligeons pas pour autant la puissance du message. Un message 100% orienté, un message qui doit changer, bousculer la vie des gens. Le Hell House a d'ores et déjà modifié l'existence de l'Abundant Christian Life Center, lui donnant des allures de PME. Pour faire tourner la boutique, outre 2 pasteurs à plein temps, on en a embauché un à mi-temps, ainsi que 4 secrétaires. On a également ouvert un site internet et inauguré une aire de protestation, réservé aux gays et aux lesbiennes sur le parking de l'église. J'en avais marre qu'ils se couchent devant les guichets pour empêcher les gens d'entrer. Alors je leur ai réservé un enclos où ils peuvent se rassembler et nous huer tranquillement. Je ne hais pas les homos. Je déteste ce qu'ils font. N'en déplaise aux libéraux et à leur propagande falsifiée, on ne naît pas gay. C'est Lucifer, le maître des ténèbres, qui vous fait croire ça. Mais c'est comme l'avortement. Avorter, c'est tuer. Arrêter un cœur qui bat. Sans s'en rendre compte, on devient tous de plus en plus immoraux. On s'éloigne de la Bible. Notre show est une réponse violente, appropriée à l'offense qui chaque jour est faite à la parole de Dieu. Vous trouvez cela excessif? Mais c'est normal, vous êtes européen. Je crois d'ailleurs que nous devrons adapter notre spectacle aux sensibilités de votre continent. Pour l'instant, le Hell House est une attraction saisonnière. Aussi, afin que nous puissions apprécier à loisir les détails de chaque fresque, le pasteur a convoqué tous les figurants des tableaux « L'homosexuel et l'avortement » afin d'organiser une représentation privée. Et là, devant l'objectif de notre photographe, le révérend Roberts, entouré de sa femme et de ses deux jeunes enfants, se transfigure soudain en un implacable metteur en scène, dirigeant les bénévoles, contrôlant chacun de leurs rictus, chacune de leurs expressions. À la jeune avortée, il conseille avec tact « Incline ton visage en arrière, exprime toute ta souffrance, pense à ta propre agonie. » Aux infirmières qui l'entourent, « Mettez du sang sur les draps et aussi sur vos gants. » Voilà, j'aime bien le sang sur les gants au caoutchouc. Quant à toi, le diable, montre le coton rougi avec un rictus effrayant. Oh, c'est parfait. Puis, se tournant vers le photographe, il a cette sublime notation. Je compte sur vous pour ne pas faire de prise de vue des jambes de la jeune femme qui avorte, hein? Il faut quand même que tout cela reste décent et ne soit pas de mauvais goût. Avant d'ajouter aussitôt à l'endroit des infirmières, surtout qu'on voit bien le sang, n'hésitez pas à humecter les compresses. Nous traversons maintenant l'église vers une autre pièce. Le jeune homme, qui, l'air livide, attendait jusque-là près du couloir, se hisse dans un cercueil posé au centre de la scène. « Vous savez qu'un de mes paroissiens a offert ce cercueil-là à sa femme pour le jour de ses 40 ans ? Ça nous a tous fait beaucoup rire, mais ce n'était pas de très bon goût, je l'avoue. » Puis le silence se fait. Sans indication de son mentor, le figurant s'allonge dans la bière, referme la partie basse du couvercle, entre lentement dans la peau glacée de son personnage, détend les traits de son visage, croise les mains et ferme paisiblement les yeux. Cette fois, il semble mort à jamais. Et nous, définitivement atterrés.
I loved when ladies hid in her lap. Their babies fell to the floor. And the world stood still.
C'était « L'Amérique m'inquiète » de Jean-Paul Dubois. Texte choisi par Laurent Martin. Deuxième épisode. Avec Philippe Weissert et Peggy Martineau. Prise de son, montage et mixage, Émilie Couette, Sofiane Aktib et Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Michel Sidorov. « L'Amérique m'inquiète » est publié aux éditions de l'Olivier.